Vous écoutez
RMC. RMC. Charles Matin.
Charles Magnin.
À 5h43, c'est parti pour la bande sur RMC avec Anthony, avec Jordan, Géraldine et Younes qui s'installe avec nous au 32-16. Salut Younes.
Bonjour à tous.
Salut Younes, chauffeur poids lourd du côté de Champigny-sur-Marne. Déjà au volant à cette heure-ci, Younes?
Exactement.
Pour le boulot?
Je finis mon service.
Vous finissez, vous avez roulé toute la nuit?
Exactement.
Bon, et ça a roulé?
Oui, de nuit ça va.
Mais est-ce que vous n'avez pas roulé trop vite, Younes? Parce que ce matin, on va parler des limitations de vitesse. L'association Prévention Routière qui dit qu'il faudrait généraliser. Il y a déjà 200 villes en France qui l'ont fait. Passer aux 30 km/h partout en ville, que ça devienne la règle. Est-ce que vous y êtes favorable, Younes, vous, en tant que professionnel de la route?
Alors, pour tout ce qui est centre-ville et hyper-centre, effectivement, j'ai rien contre. Mais généraliser ça à toutes les villes, il y a tout. Toute la surface de la ville, par contre, ça me semble inadapté. Sachant qu'en plus, quand on passe à 30 km/h, généralement, ils rajoutent des équipements, ils réduisent les passages. Et du coup, pour nous qui sommes professionnels de la route, ça nous pose pas mal de soucis parce que on conduit des véhicules qui sont assez gros. Et le problème, c'est que on n'est pas forcément pris en compte dans le dimensionnement des rues et de plus en plus, ça accroche.
Ah oui, pour vous, c'est la largeur des routes, mais la vitesse, Younes, vous êtes chauffeur poids lourd, un poids lourd qui passe en centre-ville, on n'a pas envie qu'il passe à 60, quoi.
Ah oui, exactement, oui. Et de toute façon, nous, on est limité en vitesse, hein, et puis on est surveillé par le chrono tachygraphe. Du coup, on est quand même des professionnels de la route. Mais le souci, c'est que partout où ils créent des zones 30, ils réduisent les largeurs des voies. Et pour passer avec une remorque ou avec un poids lourd, ça commence à devenir compliqué un peu partout.
Oui, mais en tant que ça vous arrive, j'imagine, Younes, d'être un peu piéton de temps en temps. Est-ce que vous...
Exactement.
Est-ce que voilà, quand vous êtes piéton, vous vous dites pas « Oulala, là ça roule un peu vite, je préférerais que ce soit à 30 dans ce quartier ».
Ah oui, effectivement, au niveau de certains passages piétons, bon, il y a aussi des aménagements à faire par rapport aux communes, à certains endroits qui sont dangereux. Ça, je suis tout à fait d'accord.
C'est tout le débat ce matin, parce que selon le point de vue, quand on est piéton, tout à l'heure, on avait Vincent qui était cycliste, qui disait, moi, en tant que cycliste, ça change tout. Quand je me fais doubler par une voiture, qu'elle soit à 30 ou à 50, au niveau sécurité, c'est pas pareil. Et en même temps, quand on est dans sa voiture, on avait Sébastien tout à l'heure qui nous disait, quand je suis dans ma voiture, à 50, je maîtrise, tout va bien, il n'y a pas de problème, et j'ai pas envie de rouler à 30 en ville. Donc voilà, tout dépend un peu du point de vue et de la sécurité. Tiens, je vais quand même faire un petit tour de table parce que j'ai trois automobilistes autour de moi. Younes, on va compléter, on va avoir toutes les utilisations. Anthony, toi, t'es souvent voiture ou pas?
Ça m'arrive, ouais, des fois.
Et alors, le 30 en ville, à Paris, c'est déjà le cas. Hein.
Ouais, mais c'est compliqué.
Le 30 est devenu la règle.
Moi, je trouve que Younes, il donne un bon point, c'est que en ville, ça veut pas dire grand chose, que t'as l'hypercentre avec des rues hyper tortueuses, t'as aussi des grands boulevards. À Paris, t'es sur les boulevards des Maréchaux. Quand t'es à 30 km/h en pleine nuit, ça a pas trop de sens, tu vois.
Mais il y a des axes limités à 50. À Paris. En fait, l'idée, c'est que le 30 devienne la règle et que sur certains axes, on laisse
tu
le 50,
quand même 50.
Sur les grands axes. Ouais. Il ne s'agit pas de tout limiter à 30. Aujourd'hui, la règle, c'est 50 et il y a des zones 30. Là, ce serait de faire 30 et des zones 50.
Et des zones 50, ouais, c'est ça.
Voilà. Jordan,
je trouve qu'à Paris, ça ne change pas grand-chose selon la période de la journée que c'est souvent bouché et on ne roule pas souvent au-delà des 30 km/h. Donc, en vérité, dans les faits, j'ai l'impression que ça ne change pas grand-chose.
C'est vrai qu'en journée à Paris, 30 km/h, c'est un objectif.
C'est clair.
C'est une utopie. Et Géraldine?
Non, je trouve que c'est pas mal, effectivement, de réduire la vitesse pour des raisons de sécurité. On parle de la pollution. En revanche, ça n'a pas vraiment d'impact sur la pollution, si ce n'est qu'on peut laisser la voiture au garage plus. Voilà, on va se dire, je ne vais pas la prendre pour rouler à 30 à l'heure.
Donc, ça, ce n'est pas le bon argument.
Mais la pollution, ça change quand on passe de 130 à 110, mais de 50 à 30, ça joue pas.
Bah, c'est important de le préciser.
Si je peux me permettre de réagir sur ce point-là, par rapport à la pollution, moins on roule vite, plus les moteurs sont en sous-régime et plus on encrasse tout ce qui est filtre à particules, etc. Et le problème, c'est que c'est une énorme source de problèmes, surtout pour les personnes qui ont des véhicules récents équipés d'Adiblou, etc. On se retrouve souvent au garage parce que on roule en sous-régime.
Vous savez quoi, Younes, il y a les véhicules récents qu'on connaît tous. Mais alors Anthony Morel a carrément le véhicule du futur ce matin. Parce que vous savez que c'est le salon Vivatech en ce moment, l'immense événement français dédié à l'innovation. Il y a beaucoup de nouveautés dans le domaine de l'automobile, de la voiture justement. Anthony, notamment une voiture solaire.
C'est ça, c'est une voiture électrique mais qui est capable de rouler en utilisant un carburant complètement gratuit, la lumière du soleil. Sur le papier, ça fait rêver, c'est une idée qui date des années 50. Hein. Déjà, il y a eu beaucoup de concepts depuis et là, on commence à voir des modèles arriver assez intéressants. J'ai rencontré une entreprise qui s'appelle Lightyear dans les allées de ce grand salon, alors qu'ils travaillent sur des panneaux solaires pour voitures. En gros, ils veulent commercialiser leur technologie auprès de toutes les marques et donc en gros, c'est des panneaux solaires alors avec des matériaux composites ultra légers, une conception très aérodynamique.
C'est le toit de la voiture qui capte le soleil.
Exactement. C'est le capot, le toit et le coffre. Tu peux en mettre absolument partout.
Mais
et
du coup, je ne peux pas rouler en Bretagne.
Alors, tu peux, mais c'est moins évident que si tu vas rouler à Marseille, clairement.
Oui, non, mais on est d'accord. Que c'est, voilà, non, mais en Californie, c'est plus simple.
C'est plus simple. Non, mais c'est toujours pareil. Les panneaux solaires, ça fonctionne moins bien, mais ça continue de fonctionner, même si un peu
c'est le temps. C'est vrai que ces derniers temps, il y a eu plus de soleil en Bretagne qu'à Carpentras. Hein.
En plus.
Ah, en plus. Mais à coup le pas, les Bretons.
Non, mais alors, ce qui est intéressant, c'est que tu vas gagner en autonomie 70 km par jour. C'est une voiture électrique classique par ailleurs, hein, évidemment. Tu peux la recharger, il n'y a pas de problème. Mais si tu ne veux ne pas la recharger, eh bien, avec l'énergie du soleil, tu vas gagner 70 km. Donc pour les petits trajets urbains, globalement c'est pas mal. Et si tu fais moins de 70 km par jour, eh bien tu n'as plus jamais besoin de recharger ta voiture, ce qui est extraordinaire. Ça permet aussi d'avoir des batteries plus petites et donc moins polluantes.
La voiture solaire du futur. Et puis tu nous as aussi apporté une espèce de carte de crédit là que t'as entre les mains.
C'est ça. Alors c'est absolument pas une carte de crédit sur petit appareil. Ouais, mais ça y ressemble.
Ça y ressemble.
Tout à fait raison.
Format.
En fait, c'est un petit objet qui permet de stocker l'équivalent de 1000 ordinateurs sur ce petit truc là que j'ai dans les mains. Tu te rends compte du truc ?
Ça ressemble à une carte de crédit, en fait.
Exactement, mais sauf que à l'intérieur, tu as de l'ADN. En fait, on peut stocker les informations numériques dans des brins d'ADN.
C'est ultra fin. Hein.
C'est ultra fin. Ça, c'est le stockage du futur. On pourra imaginer les data centers de demain. Tu sais, le truc qui pollue énormément, les data centers, c'est un énorme enjeu écologique. Eh bien, on pourrait réduire leur taille de 1000 fois en utilisant cette technologie qui est une technologie française. Ça s'appelle Biomemory et c'est une petite révolution à venir dans les années qui viennent.
Donc la clé USB du futur, c'est une carte de crédit pour
c'est
le dire
exactement
tout
ça,
simplement.
Ouais.
Grâce à Anthony, on découvre toutes les innovations en ce moment du salon VivaTech. Et puis ce soir, côté sport, l'événement, ce sera ce barrage, ce play-off, comme on dit maintenant, Jordan Olivier, entre Saint-Etienne et Rodez. C'est le deuxième match des play-offs de Ligue 2. Et c'est en quelque sorte ce Saint-Etienne-Rodez, un choc des opposés.
Oui, la Saint-Etienne, évidemment, c'est le club mythique du foot français avec son armoire à trophées pleine à craquer. 10 titres de champion de France, 5 coupes de France, une coupe de la Ligue face à une équipe de Rodez, finalement assez peu habitué à prendre la lumière et qui lutte généralement pour sa survie en Ligue 2. Le Rodez Aveyron Football, c'est aussi le 16e budget de 2e division, autour de 8 millions d'euros seulement. C'est donc un petit miracle de les voir à ce niveau. Après avoir éliminé le Paris FC, les Ruthénois se verraient bien éteindre le chaudron de Geoffroy Guichard ce soir. En tout cas, Didier Santini, le coach, y croit.
Il faut en mettre de la folie et je pense que c'est quand on a des rêves, quand on a ce sentiment qu'on peut battre des grandes équipes, de faire des grands matchs, de faire une belle saison. Ils y ont cru dès le début et au fur et à mesure, ils se sont appropriés pas mal de choses. Je sais qu'ils sont capables de tout.
Et il a raison d'y croire, le coach de Rodez, parce que Saint-Etienne a toujours eu du mal contre son équipe.
Avec une statistique pour illustrer les difficultés de Saint-Etienne depuis leur retour en Ligue 2, c'était en 2022, les Verts n'ont jamais réussi à battre Rodez. 5 matchs, 0 victoire, 3 nuls, 2 défaites, mais surtout la fin de saison était frustrante pour la SSE qui avait l'occasion d'accéder directement à la Ligue 1 lors de la 38e journée. Mais la défaite face à QRM a tout chamboulé et c'est Angers qui leur est passé devant avec cette deuxième place, donc synonyme de ticket pour l'élite. L'entraîneur Olivier Dalloglio a dû évidemment remobiliser ses joueurs. Le discours est désormais différent. Une nouvelle compétition commence.
On l'a dit d'entrée, c'est un match de coupe. Je pense que les garçons ont déjà joué des matchs de coupe. Dans coupe, il y a presque couperet sur ce match-là. Et tu gagnes ou tu perds. Quoi. Voilà, donc, est-ce que l'équipe elle est prête là-dessus ? En tout cas, elle a été préparée comme ça, ouais, pour être prête.
On devrait jouer à guichet fermé ce soir, Geoffroy Guichard. Du côté des supporters de Rodez, on est prêts aussi. Ils seront 1000 à faire le déplacement. La mairie a même prévu d'installer un écran géant. 2500 personnes sont attendues. Rodez joue ce soir en quelque sorte sa Coupe du Monde.
Oui, non, mais je sais pas. Mon cœur balance. Qui c'est on a envie de voir en Ligue 1 entre Rodez et Saint-Etienne? Et puis il faudra encore passer l'étape Messine. Hein. Il y a Metz.
Tout à fait. Un match aller-retour contre Metz pour l'une des deux équipes.
Voilà, c'est compliqué hein, désormais hein, l'accession en Ligue 1, mais je sais pas entre Rodez et Saint-Etienne. Bah, tiens, je vais poser la question à Younes qui est toujours là au 32-16. Younes, est-ce qu'on préfère voir Saint-Etienne ou Rodez en Ligue 1?
Ah bah personnellement j'aimerais bien voir Rodez gagner mais bon, sur le papier c'est Saint-Etienne qui est favori.
Oui, c'est le gros là Saint-Etienne.
C'est le gros mais ça me ferait plaisir de voir Rodez passer.
Ouais, je suis assez d'accord. Ce serait sympa de voir Rodez en Ligue 1.
Le symptôme Coupe de France, un petit peu. C'est-à-dire que le petit peut manger le gros.
Bah, d'imaginer ce Rodez PSG la saison prochaine en Ligue 1, bah, ça, oui, ça me donne déjà le sourire. Et puis, tiens, Younes, bougez pas, on va parler musique tout de suite dans le bonus avec Géraldine, parce que Géraldine, Apple vient de publier le classement, attention, des 100 plus grands albums de tous les temps.
Vous reconnaissez Lauryn Hill, évidemment chanteuse des Fugees, dont l'album The Miss Education arrive en tête de ce classement publié par Apple Music.
Je suis pas sûr que tout le monde soit d'accord.
C'est étonnant. Hein ouais. C'est un classement qui est forcément subjectif, hein, même si la firme américaine précise qu'il a été confectionné par un collège d'experts et de nombreux artistes. Un classement très américain, puisque derrière Lauryn Hill, on retrouve Michael Jackson. Et l'album Thriller, qui est donc numéro 2, les Anglais des Beatles décrochent, eux, la troisième place. Avec l'album Abbey Road, que vous avez forcément tous reconnu. Ouais.
C'est moins étonnant pour le coup.
Oui, voilà, je les aurais même remonté un petit peu. Seul français du classement, c'est les Daft Punk, qui ne sont que 23e avec Discovery.
J'aurais pas pris celui-là, moi, des Daft Punk. J'aurais pris le dernier, là. Celui avec Get Lucky et tout, avec Pharrell, Random Access Memories.
Je suis d'accord.
Vaste débat.
Bah, d'ailleurs, dans le top 10 de ses plus grands albums de tous les temps, on pourrait citer aussi Prince, Stevie Wonder, Amy Winehouse ou encore Nirvana.
Ah, ça aussi, c'est classique. C'est dur de choisir, là. Mon cœur balance entre Michael Jackson. Kurt Cobain, il y a du très beau monde en tout cas dans cette liste. Ah bah tiens, un petit tour de table. Ouais. Alors Géraldine, toi je sais, c'est Oasis.
Oui.
Allez,
leur deuxième album.
Ils sont là dans le top 100. Ils sont à la 30e place, je crois, quelque chose comme ça.
Exactement.
Les Anglais d'Oasis. Anthony Morel, si tu devais garder un seul album, le meilleur de tous les temps.
Queen Live at Wembley. 86.
Le live. Ah, on a le droit de tricher avec des lives.
Celui-ci, c'est vraiment mon coup de cœur. C'est un album. Et c'est l'une des dernières apparitions de Freddie Mercury et les frissons à chaque fois.
Jordan Olivier.
Moi, ce sera un album de Jean-Jacques Goldman. Alors, désolé, il n'est pas dans le classement Apple, évidemment, mais il est dans le classement, je crois, des meilleures personnalités, enfin des personnalités préférées des Français, régulièrement premier depuis des années.
Malgré sa discrétion,
Bien joué Goldman, bien joué Jordan. Tiens, est-ce que Younes au 32-16 a un album, un titre préféré, Younes?
Un Sultan of Swing de Dire Straits.
Ah bon, ça fait plaisir.
Attention, le guitar de malade.
Ouais. Bien joué Younes aussi. À chaque fois, j'ai envie de dire ah bah oui, c'est celui-là le meilleur. À chaque fois, quand je vous passe la parole, bien joué Younes, Dire Straits à 5h55 sur RMC. Merci Younes d'être passé par le 32-16.
Merci à vous.
À
bonne
très
journée.
Vite. Bon courage. C'est la fin de la nuit, c'est ça, pour vous, Younes.
Fin de la nuit. Je rentre me reposer.
Et ben voilà, on vous raccompagne, on vous borde aussi le matin. On fait ça aussi sur RMC. On est tous ensemble pour toute l'actu.